Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit.
Si on a parlé de la famille, c'est pas pour faire de la famille un but en soi. C'est réellement un moyen que Dieu utilise pour préparer la prochaine génération, pour répandre son royaume aujourd'hui. Mais la famille, c'est aussi un modèle de sa famille spirituelle plus large qui est l'Église. L'Église universelle, mais aussi l'Église locale. On va regarder ça ensemble. Tout d'abord, il y a plein d'images dans la Bible qui nous décrivent l'Église. Il n'y a pas tellement une définition de l'Église. Je parlais hier soir des mentalités grecques et hébraïques. Avoir une définition pour tout, c'est assez grec. On veut enfermer dans une boîte en disant, ben voilà, ça c'est les contours, ça c'est le contenu. La définition de l'Église, c'est ça. Alors, c'est pas forcément faux. Mais la Bible, qui est plutôt écrite dans une pensée hébraïque, utilise plutôt des images. L'Église, c'est comme un corps. L'Église, c'est comme une maison. L'Église, c'est comme une armée. Et une image qui revient souvent, c'est l'image de la famille. Il y a beaucoup de termes familiaux pour décrire l'Église. Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants, nous sommes des frères et sœurs. Et souvent, on utilise ces termes. Ah, on est dans la famille de Dieu, comme c'est bon d'avoir des frères et sœurs. Mais je m'excuse, moi, des fois, j'ai un peu de peine avec ce langage. Parce que des fois, j'ai un peu l'impression que c'est un langage à l'eau de rose qui veut rien dire. Puis quand on dit « bonjour, frère », c'est tout simplement une autre manière de dire « écoute, je me rappelle plus de ton prénom ». Et puis, derrière, il n'y a rien. On joue à des belles relations, un petit peu doucereuses, mais on ne va jamais en profondeur. Alors qu'on sait bien que la famille, c'est le lieu où, au niveau relationnel, on est souvent confronté à nos limites. On doit aller au-delà, on doit pardonner, on doit partager, on doit s'ouvrir, on doit résoudre une situation, on doit parler de quelque chose qui nous pèse. Et puis, dans la famille de Dieu, tout d'un coup, on pourrait rester très superficiel et en surface. Et moi, ça me pose problème. Je pense que si on reste très superficiel en surface, on trahit le fait que l'Église est une famille. Et on ne vit pas réellement ce que Dieu a prévu pour ça. Effectivement, nous sommes appelés à être des frères et sœurs, mais ça veut dire beaucoup plus qu'en termes creux qu'on utilise juste parce qu'on ne se souvient plus du prénom de la personne. Vous voyez ce que je veux dire? On continue. Pour rester dans ce langage familial, la Bible décrit plusieurs étapes de maturité spirituelle. Et là encore, on retrouve des termes familiaux. On trouve ça dans 1 Jean 2, les chapitres 12 et 14. Et j'aimerais prendre ce texte comme base pour le message de ce matin. Je vais vous le lire, enfin vous pouvez le lire aussi en même temps que moi. « Je vous écris, enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés par son nom. Je vous écris, père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le méchant. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le méchant. » On a ici trois étapes de maturité spirituelle qui nous sont décrites. Les enfants ou les petits-enfants, après il y a les jeunes gens et après il y a les pères. Comme on vit une croissance au niveau physique, ceux qui ont fait le cours Fabiano, je sais qu'il y en a beaucoup dans cette église, on voit qu'il y a des étapes de développement, qu'on passe par différents stades pour aller à la maturité. Puis la maturité, c'est de devenir adulte dans notre foi, dans notre caractère, dans la gestion de nos émotions, dans nos relations. Et c'est un réel cheminement parce qu'on traîne avec nous des bagages qui fait que des fois, on est un peu handicapé dans notre manière d'être en relation les uns avec les autres. Mais spirituellement, on a aussi des étapes de développement. On parle de nouvelle naissance, on parle d'esprit d'enfantement. Je souffre à nouveau les douleurs de l'enfantement quand Paul priait pour les Éphésiens. Donc c'est du langage familial, c'est du langage lié au développement également dans le domaine spirituel. Alors on est au début, on va prendre ces trois étapes puis voir un petit peu à quoi elles peuvent correspondre au niveau spirituel. Tout d'abord les petits-enfants. Alors ce texte nous dit que les petits-enfants ont connu le Père et que leurs péchés sont pardonnés. C'est le béaba de la vie chrétienne. Tu es réconcilié avec Dieu, tu commences une relation avec lui, tu connais le Père. Le Père, pas juste un Dieu lointain, pas un Dieu juge, le Père. Les petits-enfants découvrent le Père. Et ça, ça me parle. Déjà rien que ça. Parce que le Père, combien parmi nous connaissent le Père? Quand je vois, en circulant un petit peu dans les églises, combien de chrétiens ont des difficultés réellement à connaître Dieu comme un Père, à connaître son amour inconditionnel, à connaître sa grâce, puis on lutte constamment avec l'acceptation, avec notre identité, avec notre valeur, qui sont réellement les choses que le Père établit en nous, enracine en nous. Et c'est l'étape des petits-enfants. Les petits-enfants, leurs péchés sont pardonnés. Là aussi, c'est le béaba. Alors là, encore une fois, on a toujours toute la théorie. Oui, je sais, Jésus est mort pour moi, mes péchés sont pardonnés à cause de son sacrifice à la croix. On sait tous le réciter, mais combien on vit avec une condamnation, une culpabilité, avec les mêmes péchés qu'on ressasse continuellement. Et ça, c'est l'étape des petits-enfants. Le béaba de la foi. Le commencement. Et je me dis, les amis, des fois, on est encore des petits-enfants, hein. C'est pas une tare. Moi, j'aime les petits-enfants. Et j'ai envie qu'on en ait toujours plus. Le seul problème, c'est quand il reste des petits-enfants. On est appelé à grandir. On est appelé à voir ces choses s'établir en nous. Parce qu'il y a bien plus à la vie chrétienne que ça. C'est juste le début. Alors, on prie pour un réveil. Mais est-ce que vous pensez réellement que Dieu va confier un réveil à des petits-enfants? Je crois qu'il faut qu'on aspire à grandir vers la maturité. Et qu'on aspire, qu'on soupire après la révélation du Seigneur dans ces choses. La vie autour de nous, elle nous enseigne aussi sur les petits-enfants. Les petits-enfants sont dépendants. Ils ne savent pas s'habiller, ils ne savent pas se nourrir eux-mêmes. Surtout les tout-petits, ils ont besoin réellement complètement des parents. J'avais vu une émission à la télé dernièrement. J'ai vu un petit poulain qui est né. Et puis, en quelques heures, il est sur pattes, il va téter lui-même, il va chercher. Mais un être humain, il faut des années jusqu'à ce qu'il puisse devenir indépendant, qu'il puisse se nourrir, qu'il puisse devenir autonome. Combien de chrétiens sont encore complètement dépendants? Combien de chrétiens ne savent pas encore se nourrir eux-mêmes, par exemple? Ah ben, vivement le prochain culte qu'on ait à manger. Puis d'ici là, ben, on meurt de faim. On n'ouvre pas la parole chez nous. On ne prie pas, on ne lit pas, on ne se nourrit pas, on ne médite pas, on n'étudie pas. Mais quand on grandit dans la maturité, c'est quelque chose qui se développe en nous. On le fait tout seul. Ce n'est pas du légalisme. C'est juste une habitude de vie qu'on a pris. Comme notre corps a besoin de manger, puis il nous le rappelle constamment, notre âme a besoin de nourriture, notre esprit a besoin d'être nourri, et on le fait régulièrement également. Ça fait partie aussi de la croissance. Les petits-enfants sont égocentriques. Tout tourne autour d'eux. C'est centré sur leurs besoins, sur leurs envies. Puis des fois, nous aussi, on en est là. « Oh, j'ai pas envie. » Ce n'est pas lié à ce qu'on ait envie ou pas. Quand on est adulte, on sait bien qu'on ait envie ou pas d'aller au travail, ben, on doit y aller. Et puis le patron ne va pas nous féliciter parce que « Ah, tu n'avais pas envie, mais tu es quand même venu, je te félicite, c'est bien. » Ça, c'est les petits-enfants. Quand ils font ça au début, on les encourage là-dedans, c'est sûr. Mais on est appelé à dépasser ces choses-là. Alors les petits-enfants, encore une fois, une étape merveilleuse. On veut plus de petits-enfants dans l'église, mais on veut qu'ils grandissent. Mais comment grandir? On va voir plus tard. Ensuite, il y a les jeunes gens. Ah, juste les petits-enfants. Moi, j'ai aucun problème avec mon fils Christopher, qui a 4 ans, a encore besoin de couches pendant la nuit. Juste pendant la nuit. Alors c'est super, la journée, il n'y a plus besoin. Mais s'il a 40 ans, il en a encore besoin. Là, il y a problème. Et vous voyez, être un petit-enfant, ce n'est pas une question d'âge. Moi, je connais des très jeunes qui sont déjà très matures dans leur foi. Et je connais des très vieux qui sont encore très enfants dans leur foi. Et des fois, il suffit d'aller dans un home de personnes âgées. Et tout d'un coup, tout ce qu'il y a réellement dans le caractère, ça ressort. Et vous voyez certaines personnes qui, au niveau des cheveux blancs, ont l'âge de la sagesse, mais qui se comportent comme un petit enfant de 2 ans. Non, je veux pas. Donc, ce n'est pas une question d'âge, ce dont je parle ici. Bien que c'est évident qu'avec l'âge et l'expérience, il y a une certaine sagesse et maturité qui viennent aussi. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas lié uniquement à ça. Donc, les jeunes gens. Le texte nous a décrit ces jeunes gens comme étant forts. La parole de Dieu demeure en eux et ils ont vaincu le malin. Ça, c'est intéressant. La parole de Dieu demeure en eux. Ça veut dire que c'est des gens qui ont appris à se nourrir. C'est des gens qui aiment la parole. Et c'est un réel défi quand on travaille avec les jeunes aujourd'hui, parce que beaucoup de jeunes n'aiment pas lire. On est une génération visuelle. Ils aiment ce qui est audiovisuel, ce qui flash, ce qui bouge et tout. Puis quand il faut développer une habitude de vie, puis travailler, s'enraciner dans la parole de Dieu, c'est quelque chose de plus difficile. Donc, les jeunes gens, ils aiment la parole, ce qui les rend forts. La parole de Dieu en eux, ça développe une force. C'est des gens enracinés, solides, et ils ont vaincu le malin. C'est toutes des choses qui découlent les unes des autres. Donc, ils commencent à remporter des victoires dans leur propre vie. Et ça, c'est des choses vraiment intéressantes. La jeunesse, on voit aussi autour de nous, c'est le temps des exploits, c'est le temps des défis, c'est le temps des victoires, c'est le temps de l'autonomie, c'est le temps de l'indépendance. Ça peut aussi devenir le temps de l'arrogance. Je me souviens, quand j'étais responsable de groupe de jeunes, on a vécu un mini-réveil. En quelques années, on a passé de 30 participants à 150, on a multiplié, on a créé des nouveaux groupes de jeunes dans de nouvelles régions. C'était une période enthousiasmante. Mais on devenait assez fiers de nous, finalement, parce que Dieu nous utilisait. Et puis, on devenait assez arrogants. On regardait, bon, l'église, il fallait bien y aller. Il fallait aller à l'église. Donc, on allait le dimanche, on encourageait les jeunes à aller, parce qu'un jour, ils ne seront plus dans le groupe de jeunes. Mais dans ces églises, ça ne bouge pas. On s'ennuie. Et puis, on portait un regard comme ça, assez arrogant, sur tout ce qui se passait autour. On se disait, ben, nous, on est arrivés. Et le sommet de la vie chrétienne, pour nous, c'était des jeunes enflammés pour le Seigneur. Il n'y a rien de mieux que ça. Puis après, ces jeunes, ils ont grandi. Ils sont devenus des adultes. Certains sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont eu un premier salaire à gérer, avec d'un coup un pouvoir d'achat. Ils ont eu toutes sortes de tentations qui sont là, et de pressions, de responsabilités, qui sont liées à l'âge adulte, qu'on n'a pas forcément quand on est jeune. Et beaucoup n'ont pas su gérer ça. On pensait qu'on était arrivé, on pensait qu'on n'avait pas besoin des anciens. Et là, on a réalisé que les jeunes, ben, on a su les amener jusqu'à la jeunesse, c'est là où on en était. Mais plus loin, beaucoup se sont éloignés de la foi. Et je pense sur les centaines de jeunes qu'on a touchés, il y en a bien, je pense bien les deux tiers qui sont aujourd'hui soit plus chrétiens, soit pas dans une église. Ce n'est pas l'aboutissement d'être jeune, enflammé pour Dieu. Mais c'est une étape qui est passionnante. On est appelé à devenir des pères. Et ce passage nous parle des pères. Ou des mères. On est appelé à devenir des parents spirituellement aussi, comme c'est le cas au niveau physique. Alors, il y a toujours des défis à ce niveau-là, on en parlera tout à l'heure. Ce texte nous dit que les pères, c'est ceux qui ont connu celui qui est dès le commencement. Qui est dès le commencement? C'est le Créateur. Donc, un père, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui se reproduit, c'est quelqu'un qui se multiplie, c'est quelqu'un qui investi dans la vie de quelqu'un d'autre, qui vit plus que pour lui-même. Moi, quand j'étais jeune, puis que j'étais célibataire, je me donnais beaucoup autour de moi, mais j'avais plein de plages où je pouvais récupérer parce que je savais m'organiser et tout. Puis après, je me suis marié. Il y avait de moins en moins de plages de récupération. Après, j'ai eu un enfant, deux enfants, trois enfants. Et puis, je réalise que je peux plus vivre comme j'ai envie. Je peux plus dire, ah, mais je vais à cette fête jusqu'à 3 heures du matin, je mets le réveil 8 heures après et tout, parce que le réveil naturel des enfants, il sonne 5 heures après, de toute façon. Donc, je peux plus vivre en étant juste centré sur moi. Je vis en fonction des autres. Et puis, je réalise qu'il y a des gens qui dépendent de mon investissement pour grandir de manière saine. Donc, ça commence à changer. Je me décentre. Être parent spirituel, c'est un aboutissement. Et ce n'est pas juste un beau mot comme frère et sœur dont je parlais tout à l'heure. Il y a une réalité là derrière et j'aimerais m'arrêter ce matin pendant le culte sur cette réalité. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un parent spirituel? Si on compare à nouveau avec la famille physique, le projet de Dieu pour amener des enfants naturels à maturité, c'est de leur donner des parents. C'est aussi simple que ça. Des enfants ne peuvent pas s'éduquer eux-mêmes. Ils ne peuvent pas s'amener à la maturité eux-mêmes. On voit ça dans certains pays où beaucoup de personnes meurent du sida, comme en Afrique, ou bien dans des grands orphelinats, où des enfants ont tendance à s'éduquer les uns les autres, mais il y a toujours des carences. Parce que ce n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu pour amener des gens à la maturité, c'est de leur donner des parents. Et c'est la même chose au niveau spirituel. Ce n'est pas pour rien que Dieu veut faire de nous des parents spirituels, c'est pour amener son peuple à la maturité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on continue de poser les bases là, hein. Tout d'abord, des parents, ils peuvent pas avoir 50 enfants. On peut pas dire, ah ben l'église c'est une famille, et puis Christian c'est le papa. Parce que, est-ce que vous avez déjà vu une famille de 50 ou de 150 personnes, avec deux parents? C'est pas une famille ça. Les relations sont distantes, ils parlent toujours à tout le monde, mais il n'y a pas de un à un, de cœur à cœur. Ce qui fait vraiment grandir dans la maturité, dans une famille, c'est quand tu prends du temps avec ton fils, tu confrontes quelque chose, tu encourages quelque chose, tu fais du sport ensemble, tu fais quelque chose, mais de un à un ou de un à deux. Et c'est là qu'il y a réellement quelque chose qui se construit dans la vie de l'enfant. Mais spirituellement, c'est la même chose. On ne peut pas juste être un papa pour 150. Autrement, c'est un orphelinat. Hein? Ou, Il y a tous les orphelins qui arrivent dimanche. Il faut qu'on prépare la nourriture. Il faut qu'on se prépare à faire les bains après le culte pour tous ceux qui ont envie qu'on prie pour eux. Et puis, on est complètement dépendant parce qu'on est tous des enfants, mais il n'y a qu'un ou deux parents, ou quatre ou cinq, qui seraient peut-être l'équipe des anciens. Mais on doit dépasser ça. On doit installer des parents à tous les échelons de la communauté, des parents spirituels, qui peuvent s'investir pour un petit nombre de personnes. Parce qu'on grandit dans la maturité au travers de relations suivies, où on est redevable, où on commence à partager au niveau du cœur. On est intime, on est vrai les uns avec les autres. On est authentique, on vit en vérité. Et alors là, quand on touche cette dimension de relation, que beaucoup d'entre nous n'ont peut-être jamais connue et qui peut faire peur, alors là, ça nous tire vers le haut. Parce qu'on peut poser nos vraies questions, nos luttes avec la pornographie, nos difficultés avec la colère dans notre couple. On en parle à quelqu'un qui a un tout petit peu plus de maturité que nous, qui peut prier pour nous, qui peut nous conseiller. Puis on sait qu'on va le revoir régulièrement et qui va nous poser des questions, pas pour nous contrôler, mais pour nous accompagner et nous aider. Il n'y a rien de tel pour nous faire grandir dans la maturité que ceci. Tant qu'on reste dans une atmosphère un petit peu d'audience, avec un papa spirituel qui essaie de nourrir la foule, on peut rester très incognito, ça nous engage très peu, on peut rester passif, et puis on peut rester un bébé spirituel à vie. Donc il y a un réel défi qui est là. On grandit au travers de relations, pas de programmes. Multiplier les parents spirituels à tous les niveaux de la communauté jusqu'à ce que l'ensemble de la communauté soit couverte. Donc on va peut-être commencer avec quelques parents spirituels où on sent qu'il y a une réelle maturité qui vont suivre chacun deux ou trois personnes, ou quatre ou cinq. On a tous, comment dire, une envergure différente dans le nombre de personnes qu'on peut suivre. Mais pas beaucoup plus. Jésus lui-même, qui était Jésus, il s'est limité à 12 personnes dans la vie de qui il a enseigné, il a investi réellement. Donc, on n'est pas meilleur que Jésus. Mais chacun d'entre nous, on est appelé à devenir parent. C'est pas quelque chose qui est limité aux responsables. Et puis après, quand la communauté est couverte par des relations où il y a réellement du suivi, de la redevabilité, de l'authenticité, on peut même déborder sur l'extérieur, en passant par les canaux relationnels existants, avec des voisins, des collègues de travail, et puis on peut commencer à avoir une relation de paternité. On va pas lui dire, bon, à partir de maintenant, je suis ton papa spirituel, c'est pas de ça que je cause. Mais on commence à investir dans sa vie. On commence à le prendre sous notre aile. On commence à l'encourager. On commence à s'intéresser à lui d'une manière plus proche. Et là, on va gagner des gens. Parce que les gens cherchent une famille. On peut devenir parent spirituel de plusieurs manières. Par engendrement, comme au niveau naturel. Hein. Paul, par exemple, a engendré Onésime. Quand il écrivait à Philémon, il parlait d'Onésime, mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes. Il l'avait amené au Seigneur quand il était en prison. Donc, on peut amener quelqu'un au Seigneur et devenir, par conséquent, son papa ou sa maman spirituelle. Ou alors, on peut adopter quelqu'un. Paul, par exemple, a adopté Timothée, qui avait été engendré spirituellement par sa mère et sa grand-maman. Mais Paul l'a pris sous son aile. Et à un moment donné, le fait qu'il soit pris sous l'aile de quelqu'un, ça a fait exploser et décoller ce ministère, ce jeune ministère plein de potentiel. Quand est-ce qu'on devient papa ou maman? Simplement à partir du moment où tu as un enfant. C'est aussi bête que ça. Hein. Tu peux avoir un enfant assez tôt. Là, j'ai vu un article dans le Matin, il n'y a pas longtemps, une jeune fille camerounaise en Suisse qui a eu un enfant à l'âge de 9 ans et demi. C'est trop tôt, c'est évident. Mais en même temps, même dans la vie d'enfants qui sont jeunes, on peut développer cette capacité à être tourné vers l'extérieur. À partir du moment où tu as un enfant, où tu décides de t'investir dans la vie de quelqu'un, mais pas juste une fois, mais dans le suivi, alors c'est comme si Dieu te mandate comme un papa ou une maman spirituelle. Et c'est passionnant. On n'est jamais prêt à être parent. Quand ma femme était enceinte de Noémie, je me souviens très bien. Je disais, Joël, tu ne peux pas la garder encore quelques mois. Je ne me sens pas prêt. Je flippe. J'ai les boules. Je ne sais pas si je vais être capable de prendre soin de ce petit être qui va arriver. J'avais peur. Ça me confrontait à mes limites. Mais on n'est jamais prêt à être parent. Puis je disais, en tout cas, tu sauras, le pipi, le caca, le vomi, c'est toi. Hein. Moi, je touche pas à ces machins. Puis vous savez, une fois que le bébé est là, Dieu donne la grâce. Puis on est tout content de pouvoir faire ces choses. Quand, avant qu'on ait, on est beaucoup dans le calcul, dire, est-ce que je vais y arriver? Non, de toute façon, tu vas pas y arriver. Mais une fois que l'enfant est là, Dieu donne. Dieu donne. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Les générations spirituelles, elles peuvent être plus rapprochées que les générations physiques. je trouvais intéressant, parce que j'étais en France, dans une église, puis le responsable là-bas, il me présentait certains de ses responsables. Puis il me disait, tu vois, cette personne, c'est ma fille spirituelle. Je l'ai amenée au Seigneur il y a 17 ans. À côté, c'est ma petite fille spirituelle. C'est ma fille spirituelle qui l'a amenée au Seigneur il y a 13 ans. À côté, c'est mon arrière-petite fille spirituelle. C'est ma petite fille qui l'a amenée au Seigneur il y a 9 ans. Et il y avait comme ça 5 ou 6 générations de personnes qui en avaient amené d'autres, qui en avaient amené d'autres, qui en avaient amené d'autres. Parce que finalement, on met en place un fonctionnement relationnel où on investit dans la vie de quelqu'un d'autre, mais on lui enseigne aussi à investir dans la vie de quelqu'un d'autre. Et puis petit à petit, c'est comme un effet boule de neige qui se met en place. Et c'est quelque chose de fort. Et c'est pas une question d'âge, comme je le disais tout à l'heure. On a une famille d'amis dans cette même église, ils ont 3 enfants. Alors les parents avaient un groupe de maison chez eux, puis à un moment donné, quand l'aîné a eu 9 ans, elle a dit « Papa, j'ai aussi envie d'avoir mon groupe de maison maintenant. » Puis le papa a dit « Ouais, mais tu es rudement jeune, attends quand même. » Puis elle a dit « Non, non, je veux commencer. » Alors ils ont dit « Ben ok. » Alors elle a invité ses 2 petites sœurs, plus 3 ou 4 copines. Et puis la maman aidait simplement à préparer. Alors il y avait une chorégraphie, il y avait un jeu, il y avait une histoire, il y avait un goûter, il y avait du temps où elle papotait, puis elle jouait au Barbie ensemble et tout. Mais elle apprenait à avoir sur son cœur quelques-unes de ses copines. Puis toutes les 2 semaines, elle se voyait. Alors c'était en France, donc les parents ont profité d'aller expliquer aux autres parents qu'est-ce que c'était ce truc et tout. Ça leur faisait plein de contacts, comme ils sont assez évangélistes, ils étaient tout contents. La deuxième est arrivée à l'âge de 9 ans, elle dit « Papa, je veux aussi mon groupe de maison. » Je dis, oui, mais écoute, on en a déjà 2 dans la maison, ça peut pas aller, quoi, t'es sûr? Puis ils ont dit, non, on n'est pas d'accord, quand même. On va pas, comme ça, ça fait trop. Mais ils ont vu que leur fille tenait tellement à ça, pendant les vacances d'été, ils étaient à la mer, et sur son cahier, sur la plage, elle écrivait des idées, de choses et d'activités qu'elle pourrait faire dans son groupe de maison avec ses copines qu'elle voulait inviter. Et les parents ont vu qu'elle avait tellement envie qu'ils ont dit, bon, on va pas la retenir. Et elle a commencé un groupe de maison. 2 ans après, c'est la 3e qui arrive à l'âge de 9 ans. Papa, je veux commencer mon groupe de maison. Alors maintenant, ils sont comme ça, ils ont 4 groupes de maison qui se retrouvent chez eux. Et chaque fille a 2 ou 3 copines. C'est pas des immenses groupes avec 20 personnes. Mais qu'elles invitent toutes les 2 semaines et qu'elles préparent un temps avec ses copines. Et puis les parents, alors ça leur fait plein de contacts avec les autres parents et leur propre groupe de maison a aussi grandi au travers de ça. Donc, relation suivie, c'est quelque chose qu'on peut enseigner depuis tout petit. Mais c'est évident que ces petites filles, elles restent des petites filles. Elles ne vont pas devenir des parents spirituels au sens où un adulte de 30 ou 40 ans ou 70 ans pourrait le devenir. Mais elles apprennent. Ce n'est pas quelque chose qui peut venir tout d'un coup à l'âge de 18 ans. Ma conversion personnelle. Moi, j'ai dû passer d'une mentalité où je pensais que je formais les gens par des programmes à une mentalité où je réalise que je forme les gens par des relations. Dans ma vie, j'ai pas été un père pour des gens. J'avais peur des relations trop proches avec les gens. Je vous expliquerai pourquoi après. J'ai aimé les projets et les visions plus que les gens. Puis je suivais les gens dans les projets. Mais de m'arrêter, de boire un café ou une bière avec quelqu'un régulièrement, puis de lui dire « Mais t'en es où là-dedans? Qu'est-ce que tu vis ?» J'avais peur. Je pouvais conduire la louange et je l'ai fait devant des milliers de personnes et même en anglais s'il fallait. Je pouvais prêcher devant des centaines de personnes ou 40 000 personnes au jour du Christ pour prier. J'avais pas peur. Par contre, je tremblais à l'idée de voir régulièrement une personne, de lui ouvrir mon cœur et puis d'essayer d'entrer dans le sien. Et puis je me sentais complètement handicapé sur le plan relationnel de proximité. Donc je me cachais derrière les programmes. Et puis ça, c'est relativement grec aussi dans le fonctionnement. On forme par un orateur. Mais en fait, les gens ne sont pas formés, ils sont informés. Ils ont reçu toute l'information. Mais c'est vraiment ce contact de proximité qui forme les gens. Donc, j'ai effectivement engendré beaucoup de personnes. Beaucoup de gens m'ont vu comme un référent dans leur vie. Mais je les ai laissés tomber le long du chemin. Puis j'ai continué, j'ai passé à autre chose. Parce que je n'avais pas compris cette dimension relationnelle. Elle me faisait peur. Donc, j'ai souvent abandonné mes enfants. Message, oui. Relation de paternité spirituelle, non. Et là, le Seigneur m'a repris il y a 2 ans, quand je suis arrivé dans un temps de burn-out, où j'ai été complètement chamboulé dans ma manière de fonctionner avec les gens. Et Dieu m'a convaincu de mon activisme spirituel. J'étais tout le temps en train d'organiser plein de trucs, mais je n'étais jamais accessible ou disponible pour des vraies relations. Et j'ai réalisé que mes fruits, ils étaient en train de s'effilocher. C'était un défi. Alors, quand on devient parent spirituel, tu me fais un petit signe, Christian. Je n'ai pas de montre, je ne sais pas où j'en suis. Mais je sens que les gens écoutent bien, là, donc je continue. Hein. On continue. Quand on est parent spirituel, si vous voulez que je m'arrête, vous écoutez plus. Hein, vous me montrez, vous baillez, ou bien comme ça. Quand on devient parent spirituel, l'objectif, c'est la maturité et l'envoi de nos enfants spirituels. On ne les forme pas pour nous-mêmes, hein, pour servir notre propre vision. J'apprends à mes enfants à faire la vaisselle ou à passer l'aspirateur, mais ce n'est pas pour que quand ils auront 40 ans, ils continuent à me faire la vaisselle et à me passer l'aspirateur. Je les forme pour qu'ils deviennent autonomes, des adultes responsables, qui soient capables de gérer leur vie avec maturité. Mais je les forme pour les envoyer. Je me souviens de ce papa, c'était le mariage de sa fille. Et puis, il était là, il l'a conduit fièrement dans l'allée, et puis il l'a donné à une personne qui était son mari. À la fin du culte, on discutait, puis il me disait, 25 ans d'investissement, j'ai tout donné. Je l'ai formé, j'ai donné le meilleur de moi-même. Tout ça pour la donner à quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'on sentait qu'il était tout travaillé. Et il aimait sa fille. Et mais à un moment donné, ben voilà, tu la formes pas pour toi. C'est comme ça au niveau physique. Et c'est comme ça au niveau spirituel. On doit faire attention de ne pas former les gens juste pour qu'ils viennent servir nos projets et notre vision. On forme pour envoyer. À un moment donné, dans la croissance vers la maturité, l'homme quitte son père et sa mère. Il s'attache à sa femme. Il ne nous doit rien. Si tout d'un coup, on essaye de garder les gens dépendants de nous ou bien attachés à nous, « Ah ouais, mais j'ai tellement investi dans ta vie, maintenant tu me dois ça. » Ça se fait assez en Afrique ou dans d'autres cultures. Alors, l'homme doit continuer à honorer son père et sa mère. Ce n'est pas une coupure de pont. Mais en même temps, on doit envoyer, on doit libérer. Et à un moment donné, on est tous appelés à devenir parents, mais à un moment donné, on doit lâcher. Et puis, on réalise que certains, on va accompagner peut-être certaines personnes pendant 2 ou 3 ans, puis après, on lâche, parce qu'on sent que la personne a besoin peut-être d'une autre personne dans l'étape de vie où elle est, ou qu'on est arrivé au bout de ce qu'on peut lui donner. Ou simplement, c'est une autre saison, et la personne commence à être parent pour d'autres, donc elle fonde sa propre famille spirituelle. Être parent, c'est une forme de mort, parce que c'est vrai qu'on se décentre de nous-mêmes. Mais c'est bon. Et vous vous souvenez ce verset qui dit « Si le grain de blé ne meurt », c'est quoi la suite? C'est intéressant parce que tout le monde dit toujours la même chose pour voir qu'on voit toujours la même chose. Si le grain de blé ne meurt, plus fort s'il vous plaît, j'entends un murmure doux et léger, mais trop doux et trop léger là. Si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas de fruits, c'est ce qu'on me dit en général, mais la parole nous dit, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Et ne porte pas de fruits. Et le projet de Dieu, ce n'est pas qu'on reste seul. C'est qu'on porte du fruit, qu'on ait des enfants spirituels. Mais de manière organique, au travers de nos relations. Pas juste par un programme où on s'est adressé à une dizaine de personnes, puis se dire, ben voilà, j'ai été un parent distant. Non, non. Et ça, c'est un réel défi. Quand Dieu voyait Abraham, il disait, il a des nations dans son sein. Il voyait tout ce que ça pouvait donner. Tout ce que ça pouvait produire. Pourtant, à la mort d'Abraham, il a eu 6 enfants au grand maximum. Et des enfants de la promesse, il n'y en avait qu'un, c'était Isaac. Mais il voyait tout ce que ça allait donner dans les générations. Alors, avec des amis, on a mis en place une vision où on veut créer une cascade de formation de disciples au travers de ces relations de paternité, de maternité spirituelle. On appelait ça Opération 222, à cause de 2 Timothée 2:2. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, tu l'enseigneras à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et on a ici 4 générations. Moi, Timothée, tu l'enseigneras à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et ça coule d'une génération à la suivante sur le plan spirituel. Et ça peut aller vite. Si réellement on saisit le projet de Dieu de créer des petites familles spirituelles dans son église. Et ça touche les gens aussi qui nous entourent. Alors, je vais passer sur certains points quand même, parce que vous êtes bien gentils, mais je ne veux pas vous tenir la jambe trop longtemps. J'aimerais juste lire ce passage dans Genèse 30. « Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. On a toujours plein d'idées pour aider le Seigneur, hein, pour trouver des raccourcis quand ça ne marche pas comme on veut. Mais c'est une réelle souffrance de ne pas pouvoir porter d'enfants. On connaît des amis qui sont stériles. Et, je ne sais pas, un peu comme une impression que c'est un pourcentage qui augmente. Alors, je ne sais pas si c'est passé dans les âges où nous on est, mais il y a beaucoup de stérilité. Il y a un problème de natalité, de manière générale. Les gens ont moins envie d'avoir des enfants, parce qu'on réalise de plus en plus que ça coûte en temps, en énergie, et même en argent. Il y a 15 à 20 ans en arrière, il y a eu des premiers articles qui sont sortis, le coût d'un enfant. Puis on a réalisé que dans sa vie, un enfant coûtait plusieurs centaines de milliers de francs. Et depuis là, la natalité n'a pas cessé de chuter. On est à combien? 1,7 enfants, même pas je crois en Suisse. En Europe occidentale, on doit plutôt être proche des 1,4 enfants par famille. Et c'est une réelle difficulté en Europe. Même, je vous lisais en statistique, en Allemagne, de plus en plus de gens font le choix délibéré de ne pas avoir d'enfants. Chez les universitaires, 40% des universitaires qui se marient ensemble décident consciemment de ne pas avoir d'enfants. C'est un ennui. On peut moins vivre pour soi. Avec la facilité de vie, l'égoïsme a tendance à grandir, puis on a moins envie de mourir en se multipliant, en se reproduisant dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est un réel défi. Défi de la stérilité, on a besoin de retrouver le désir d'être parent. Et moi j'aimerais vous dire, la croissance vers la maturité, devenir parent spirituel, c'est un aboutissement. On est à l'image de Dieu. Et je prie que ce cri de Rachel puisse grandir dans nos cœurs. Donne-moi des enfants ou je meurs. Moi j'ai pleuré sur ma vie pendant ce temps sabbatique que j'ai pris après mon burn-out, en réalisant la stérilité de ma vie. Combien je m'étais camouflé derrière des activités religieuses, des programmes et des messages, mais que réellement, sur le plan relationnel, j'étais stérile. Et c'est un dur constat. Mais après, on crie à Dieu et il nous enseigne. Et j'apprends à suivre des gens différemment. Depuis, j'ai commencé par deux jeunes, pas beaucoup. Je les voyais toutes les deux semaines. On boit un peu ensemble. Et puis, je les forme sur des aspects de leur vie dans lesquels ils luttent, ou des fondements de la foi qui sont encore fragiles chez eux. Puis, on parle de ce qu'ils sont en train de vivre. Puis, on prie pour ces choses. Et ils savent que deux semaines après, on va faire le point, on va voir où on en est. Et ils raffolent de ça. Et moi aussi. Et puis, c'est juste ma vie qui est déversée en eux. Puis, au bout d'un moment, je leur ai dit, maintenant, c'est le moment que vous réfléchissiez qui vous pourriez accompagner à votre tour. Alors, ils en ont pris d'autres, des jeunes de 13-14 ans. Ils ont commencé à les voir toutes les deux ou trois semaines. Ils faisaient avec eux ce que moi je faisais avec eux. Ils reproduisaient le modèle que je vivais avec eux. Et puis au bout d'un moment, j'ai vu une de ces jeunes de 13 ans qui était suivie par, entre guillemets, un de mes enfants spirituels. Je l'ai vue dans un groupe de jeunes. Puis à la fin du message, elle est venue vers moi. Puis elle me dit, t'es un peu comme mon grand-papa. J'ai dit, c'est vrai, merci. Ça rajeunit pas. Mais elle avait compris. Elle avait compris. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est vraiment dynamique et super. Le docteur Edward Hendricks du séminaire théologique de Dallas a dit la chose suivante. Nous commençons à grandir lorsque nous prenons la responsabilité de faire grandir quelqu'un d'autre. Dans la vie de qui est-ce que tu as investi? Est-ce que tu as des enfants spirituels? Alors beaucoup me disent, oui, mais moi j'ai pas de parents déjà. Honnêtement, j'ai personne qui me suit, personne qui me prend réellement à cœur, en dehors du groupe, de l'ensemble de la communauté. Ben, il faut bien que ça commence quelque part. On peut pas rester passif parce qu'on est des victimes ou qu'on n'a pas reçu. À un moment donné, on commence à donner et on compte sur la grâce de Dieu. Et même si c'est imparfait, on commence à mettre en route cette chaîne de formation spirituelle, cette chaîne de famille spirituelle pour amener les gens à grandir dans la maturité. Tu me donnes encore 5 minutes pour conclure? Magnifique. Tu es plein de grâce. Alors pratiquement, ça sera pour une autre fois. Je veux aussi vous laisser des frustrations, hein. Comme ça, vous me raviterez. Mais non, il y a plein d'autres personnes qui peuvent causer de ces choses-là. D'ailleurs, Christian est un excellent papa spirituel. L'histoire d'Élie. Vous vous souvenez, Élie a passé par un temps de dépression après pourtant avoir vécu des victoires avec le Seigneur absolument extraordinaires. Et Dieu l'a envoyé à la montagne d'Horeb, où il a rencontré Dieu après avoir marché 40 jours et 40 nuits. Et là, Dieu lui a parlé dans un murmure doux et léger, un petit peu comme vous tout à l'heure, plus distinct quand même, je pense. Et puis quelque part, il lui a ordonné d'aller oindre 3 personnes. C'était une des dernières étapes de son ministère. Et une de ces personnes, c'était Élisée. Et quelque part, à cette étape de sa vie, où Élie savait plus ce qu'il devait faire, était un peu déboussolé, je crois que Dieu lui a dit quelque part, va et trouve un fils. C'est le moment maintenant de transmettre le bâton. Ton expérience de vie, ta sagesse, tes victoires, ta connaissance de moi, c'est le moment que tu le transmettes dans la proximité à quelqu'un d'autre. Et Élisée est devenu un disciple d'Élie et il va le suivre, il va lui coller. C'est comme ça qu'on forme des enfants spirituels, par une relation vraiment proche. Donc peut-être pour certains d'entre vous, c'est le moment que vous trouviez un fils ou une fille. Peut-être vous êtes à un moment dans votre vie spirituelle où c'est le moment de vous reproduire. Il n'y a plus tellement d'autres sens. Vous avez un peu fait le tour de tout ce qui existe, vous avez servi dans plein de domaines, puis vous êtes dans une étape où vous êtes un peu là. Ben oui, l'étape de la jeunesse, on touche à tout, fais tout ce que ta main trouvera à faire. Maintenant, c'est le moment d'entrer dans l'étape de parent. Trouve un fils. Ensuite, il y a ce texte de Malachie 4 que Christian a cité l'autre jour. Dieu ramène le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Ça me fait penser à Paul Aimès, que vous avez découvert au mois de décembre, je crois qu'il est venu là. Hein. Février. Non, je pense pas, Christian. Novembre, d'accord. Dieu lui a donné cette parole dernièrement. Il réalisait qu'il avait, dans les places de pasteur où il était auparavant, il avait abandonné des enfants. Et Dieu lui a donné ce verset, « Je ramène le cœur des pères à leurs enfants ». Et il réalisait que beaucoup de ses enfants spirituels, ils végétaient dans leur foi. Ils n'arrivaient plus à trouver leur place. Et Dieu l'a renvoyé en disant, « Tu vas reprendre contact avec ces personnes. Tu vas renouer une relation avec eux. Ils ont besoin de toi. » Et Dieu veut ramener nos cœurs vers nos enfants spirituels qu'on a peut-être lâchés en cours de route. Ou peut-être le cœur des enfants vers leur père, vers nos parents spirituels. Il y a peut-être des choses à construire pour certains ici. D'autres, vous vous souvenez de l'histoire de Mephibosheth, qui est le fils de Jonathan, petit-fils de Saül. Quand Saül a été tué, puis que tout le royaume a été sans dessus-dessous, la servante qui s'occupait de lui, alors qu'il était tout petit, elle s'est enfuie, et puis elle l'a lâché, elle l'a laissé tomber, et il est devenu boiteux à vie. Et peut-être que certains d'entre nous, on a été suivis à un moment donné par quelqu'un, comme un papa ou une maman spirituelle, puis on a l'impression d'avoir juste été laissé tomber. Comme Mephibosheth. Et on a l'impression que ça a laissé des traces. Et peut-être qu'on boite dans notre marche avec Dieu aujourd'hui encore, parce que quelqu'un nous a simplement laissé tomber, cassé notre confiance. Et quand je parle de messages comme celui de ce matin, ça vient réveiller des souffrances, et puis ça vient mettre tout plein de protections et de réflexes pour nous défendre, en disant non, plus jamais ce genre de relation. Parce que ça réveille ça. Mais Dieu veut guérir. C'est pas parce que tu as été laissé tomber que ça reflète son cœur et son caractère et son projet pour ce que ça veut dire que d'être un papa ou une maman spirituelle. Donc là, on a un choix à faire par rapport à ça. Une autre chose, j'ai mis Pierre-Yves parce que c'était le nom d'un ami quand j'étais jeune chrétien. Et Pierre-Yves, je me suis donné pour lui. Grâce à moi, il était venu au Seigneur. Je l'ai emmené dans des camps, au groupe de jeunes, mais il vivait tout au travers de moi. J'essayais de le connecter à des autres, mais c'était tout au travers de moi. Même quand il était allé en Allemagne pour apprendre l'allemand pendant plusieurs mois, j'étais allé le trouver là-bas, le suivre. Vraiment, je me suis investi. Par la suite, il a fait un accident de moto. Il y a eu de gros traumatismes crâniens et tout ça. Puis il avait constamment mal à la tête. Puis il est tombé dans des déprimes. Il a dû cesser son travail. Enfin, c'était vraiment quelque chose de dramatique. Puis moi, j'essayais de le suivre régulièrement. Un jour, j'ai frappé à sa porte. Il m'a ouvert la tête. Il tirait une tête. Et il m'a ouvert sa tête, il m'a ouvert sa porte, il tirait une tête, ça c'est ça quand on veut finir à toute vitesse, hein, on mélange les mots, il tirait une tête. J'ai dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Et ce soir-là, il m'a tout vomi dessus. Il m'a dit, Guy, ce que je vis, c'est à cause de toi, tu m'as entraîné dans une secte, tu m'as raconté des bobards. Et pendant une demi-heure, il a déversé son cœur, et puis c'était une avalanche de critiques et de complaintes à mon sujet. Et puis moi, jeune chrétien, je n'ai pas su comment gérer ça. Et ça m'a profondément blessé. J'avais tout donné ce que je pouvais. Et puis voilà ce que j'ai récolté. Et je sais qu'une des raisons pour lesquelles je me suis caché derrière des programmes et des messages, qu'une des raisons pour lesquelles je ne me suis pas investi dans des relations personnelles, c'est à cause de ça. Parce que je ne voulais pas recevoir de nouvelles critiques. Et c'est sûr que quand tu es papa, maman, tu t'exposes, tu deviens vulnérable. Il suffit de voir quand on a des ados, le temps des reproches, c'est pas facile, il faut assumer. On est vulnérable. Si on a vécu des expériences comme ça dans le passé, là aussi Dieu a besoin de toucher. Et c'est aussi dans ce temps de rencontre avec Dieu, après ce burn-out, que Dieu a commencé à guérir ça. Et que je peux maintenant imaginer d'entrer dans ces choses-là. Mais je vous parle comme un nouveau-né dans cette dimension relationnelle. Parce que ça me faisait tellement peur. Et je me sentais tellement inqualifié, disqualifié, handicapé dans cette dimension-là. Quand Néhémie a commencé à rebâtir la muraille de Jérusalem, ses ennemis, Sambalat, Tobia, sont venus Et ils se sont moqués de lui. Ils voyaient toutes ces pierres qui avaient été calcinées et brûlées quand Jérusalem avait été détruite. Ils disaient, ah, regarde, ils bâtissent la muraille avec ces vieilles pierres. Est-ce que ces vieilles pierres, elles peuvent revivre? Ces pierres brûlées, est-ce qu'elles peuvent être encore utiles? Puis des fois, l'ennemi, il est comme ça. On est un peu des pierres vivantes, mais on a été brûlés par certaines expériences. Et puis quand vous entendez des messages comme ça, il y a aussi une autre voix derrière qui dit, toi, de toute façon, t'es brûlé. Tu peux pas vivre ça. C'est pas pour toi. À cause de ça, à cause de ça. T'es peut-être un Méphibosheth, t'as peut-être eu des Pierre-Yves dans ta vie. Et l'ennemi cherche à saper ce désir d'être papa ou maman spirituelle dans nos vies. Parce qu'il sait que c'est la maturité. Et que quand une église mature va se lever, alors il va trembler. Mais ce matin, on a un choix à faire par rapport à cela. Est-ce qu'on veut rester dans nos souffrances, nos échecs, nos trahisons, nos déceptions? Ou est-ce qu'on va laisser Dieu toucher ces domaines de nos vies?